OK. Alors, j'ai pensé que pour aujourd'hui, notre temps est limité. Le message va être aussi un regard sur notre vision qu'on a entretenue en 2016, ou en tout cas les objectifs qu'on s'est fixés, puis voir comment tout ça se rattache à des éléments importants de la parole de Dieu. Donc, il y aura des versets que je vais vous rappeler. Et puis, que ce soit pour vous et pour nous tous, de persévérer ensemble en tant qu'Église. Donc, en fait, on a commencé l'année en priant régulièrement. Notre prière visionnaire, qui n'est pas seulement la nôtre, mais celle de toute l'Alliance visionnaire. Sont là ensemble, tout notre cœur, viens nous tra Amen. Seigneur, entends notre prière. C'est une très grosse prière et nous. En nous, parce que c'est une langage, quelque chose de gros et pour lesquels on est incapable sans la transformation et la grâce de Dieu. Et puis, on a aussi parlé de l'Évangile cette année et particulièrement l'été passé, on a révisé ce qui est appelé dans notre Église l'Évangile dans sa plénitude. Hein. Il y a quatre. Mais c'est Jésus, n'est-ce pas? L'évangélisation s'est présentée. Jésus. Amen? Amen. Jésus, et puis il y a quatre aspects de qui est Jésus. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a quatre qui sont mis en valeur, en particulier dans notre mouvement d'Église. Alors, symbolisé par les quatre éléments du logo, la croix. Jésus, celui qui nous sauve de nos péchés, qui nous donne le pardon, la vie éternelle. Jésus Sauveur. Alors, le pichet d'huile à gauche, ça représente Jésus le guérisseur, celui qui nous guérit de nos blessures à tous les niveaux et nos maladies. Le lavoir qui est à droite, c'est rempli d'une eau qui purifie et c'est le symbole de Jésus sanctificateur, celui qui nous fait devenir comme Dieu dans notre caractère même. Et le dernier, c'est une couronne et c'est Jésus vient. Hein? Donc, nous allons bientôt régner, co-régner avec lui dans un royaume éternel, ça nous remplit d'enthousiasme et de, comment dirais-je, d'anticipation, puis peut-être aussi let's go, un sentiment d'urgence dans la tâche. Alors, on avait six ou sept domaines dans lesquels on avait travailler en 2016 et au début de l'année, on a dit, dans ces six domaines, on va travailler. Et ce que je vous avais dit il y a à peu près un an, c'est vous allons travailler pour que chacun sente qu'il appartient, qui qu'il soit, que chacun se sente mobilisé, tout un rôle à jouer. Et travaillons en équipe, développons la vie ici comme un corps, hein, à la lumière de la parole de Dieu qui dit que l'Église est le corps de Christ, chacun étant un membre ou un organe différent. Et célébrons l'aspect multiculturel. Apprécions le côté multigénérationnel. Voici un passage qu'on a évoqué au cours de l'année qui est dans Romains 15 et qui le dit bien. Et ici, Paul est en train d'écrire à l'Église de Rome, où il y avait de la division entre des chrétiens d'origine juive et les autres. Et y avait un élément là-dedans, mais si je suis juif ou si je suis pro-juif, eh bien, les pratiques de la loi sont importantes pour moi. Et les autres, ils voyaient ça différemment, mais Paul leur dit ceci. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, l'accueil, c'est non seulement un commandement dans l'Église de Jésus-Christ, mais c'est un commandement qui est enraciné dans la croix elle-même. C'est que Jésus est venu, il est mort sur la croix pour nous accueillir dans la famille de Dieu. Et nous venons de background et avec toutes sortes de problèmes variés et différents pour former une seule et même famille. Donc, prenez un moment pour saluer votre voisin, accueillez-le au nom de Jésus. Soit, je t'accueille au nom de Jésus. Oui. Oui, hein. Oh. Je pense bien à vous. Je pense bien à vous. OK, tout le monde. Il faut revenir à votre place. OK. C'est bien, tout le monde. OK, on continue. On va passer à notre prochain point. Oh. Assis-toi. Oh, Viviane, il faut t'asseoir maintenant. Bon, alors, prochaine sphère d'action. Enseignement de la parole et formation. Et l'année passée, on a continué à développer le ministère d'enseignement. Vous avez pu lire dans le rapport des ministères. Bon, c'est des choses que nous faisons déjà, hein? Sermons, cellules, cours, discipulats et groupes d'intérêt, comme cellule des jeunes adultes, par exemple. Les ministères individuels de formation, il y a des gens, vous avez lu, hein, il y a des gens qui ont dit « je me rends disponible pour rencontrer régulièrement une nouvelle personne et faire un cours biblique avec eux ». Et il y a quelques personnes qui ont commencé à le faire, et ça c'est merveilleux. Et voyez-vous, tout ça se rattache à un fondement biblique. Jésus, quand il est ressuscité, il a apparu à ses disciples sur la montagne et leur a dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. On remarque ici le côté pratique du savoir. Hein? Enseignez-leur à pratiquer. C'est pas limité à l'intellect, loin de là. Et donc, baptiser, faites des disciples. Hein? Le but, c'est de marcher comme des disciples de Jésus. Chacun de nous. qui que nous soyons, quels que soient les problèmes et les échecs qu'on est en train de vivre en ce moment, Jésus est en train de nous former comme disciples. Et il sait que nous sommes faibles. Il est en train de nous former. Et dans l'Église, le ministère, les divers ministères d'enseignement contribuent à cela. Et c'est Jésus qui nous le demande. Alors, on continue d'essayer de s'organiser et de développer des nouveaux ministères sous la direction du Saint-Esprit, comprendre les vrais besoins, créer des contextes adéquats de travail et de prière en équipe et veiller au fonctionnement. Voici une belle image qui vient des Écritures, qui parle du côté organisationnel. Est-ce que quelqu'un aimerait lire pour moi d'une voix bien forte? Merci, Elouse. C'est un trait du fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. Et il y a un élément, on va dire, organisationnel là-dedans. Qu'on soit bien coordonné, il y a des articulations. Une articulation, c'est quoi? C'est un mécanisme dans le corps qui permet des mouvements efficaces, hein, entre deux parties différentes. Un comité, par exemple, pourrait être l'équivalent. Et évidemment, il faut qu'on soit à l'écoute du Seigneur parce que c'est lui qui nous aide à former ses articulations, ses coordinations et aider chaque personne à trouver son rôle. Amen. Évangélisation, mission. Donc, je crois qu'on a été très actif en 2016. Je crois qu'on a pété le budget de l'évangélisation en 2016 et moi, j'étais bien content. Le trésorier, je ne sais pas, mais moi, j'étais content de voir ça. Et donc, oui, l'évangélisation commence chaque membre. Donc, c'est bien de participer à un effort commun, mais toi, là où tu es, dans ton école, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton quartier, tu es témoin, tu es flambeau de Christ, engagé avec le monde avec qui tu vis ta vie. Il faut aussi que les activités du dimanche soient, j'invente un mot là, il faut qu'elles soient évangélisantes, OK? Toutes les, même les cellules aussi, que quelqu'un de l'extérieur puisse venir et un enfant qui va au pays des merveilles, qui n'a jamais entendu l'Évangile, qu'il soit accueilli, qu'il ne soit pas vu comme un martien, mais qu'il soit accueilli et qu'on puisse lui présenter l'offre du salut qui est pour lui aussi. Même chose pour un adulte qui vient à la célébration ici pour la première fois et peut-être tu entends ce message pour la première fois ce matin, eh bien, le salut de Jésus est pour toi aussi ce matin, mon frère, ma sœur. Il est mort pour toi, pour que tu puisses être un enfant de Dieu. Et voilà, donc, nous voulons faire de l'évangélisation dans tous les domaines de notre vie d'Église. Mais aussi, d'une manière plus organisée, œuvrer dans le quartier de l'Église. Et développer des partenariats pour atteindre le quartier et au-delà, atteindre le monde. Je mentionne ici comité des missions. Nous avons déjà des gens qui font des efforts dans ce sens-là, de prier pour des missionnaires, et d'inviter des missionnaires, comme vous avez vu. Alors, pour l'évangélisation, voici un verset qui va peut-être vous surprendre, mais c'est Paul qui est en mission dans la ville de Corinthe, et lui, il dit, c'est le narrateur qui dit, « Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » OK, il est dans une ville complètement non chrétienne. C'est le premier missionnaire qui vient avec son équipe. Donc, quand le Saint-Esprit lui dit, « N'aie pas peur, malgré que les gens ne veulent pas t'écouter et s'opposent, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est déjà en train de travailler dans des cœurs de personnes qui ne sont pas encore croyantes pour les préparer pour devenir chrétiennes quand Paul va leur parler de l'Évangile. Comprenez-vous? Donc, quelle belle image. Il ne faut jamais se décourager dans le témoignage. Dieu est à l'œuvre avant que vous arriviez. Développement de la vision avec le conseil. Consulter l'Église, c'est un domaine qu'on n'a pas beaucoup travaillé encore. Et développer des objectifs sur le plus long terme. Il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à voir où est-ce qu'on s'en va. C'est lui qui doit nous dire, d'où l'importance de la prière. Voici ce que Jésus a dit aux apôtres au début du livre des Actes. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous que Jésus donne un genre de plan d'action, hein? C'est assez général, mais c'est comme par étapes, hein? Commencer d'abord à Jérusalem. Ensuite, la province de Judée. Ensuite, la province d'à côté, la Samarie. Et ensuite, un rayonnement mondial. Et de la même manière, nous, on est appelés à être à l'écoute de Jésus pour... C'est quoi le plan pour nous? Quelles sont les étapes qu'on veut, qu'on sent que lui nous demande de faire une à la fois? Et le dernier domaine, donc la célébration du dimanche, c'est ce qu'on fait ce matin ici. On a dit que c'est le moment fort de notre communion avec Christ ensemble. Où on vit notre unité. On est ressourcé et envoyé dans le monde. Et lui qui nous a donné gratuitement le salut, nous lui offrons en retour un culte d'adoration. On veut rendre ce culte de plus en plus beau, n'est-ce pas, pour lui. Et ça, c'est un passage qu'on avait vu ensemble au début de l'année aussi. Et est-ce que quelqu'un aimerait le lire pour nous? Donc, le Seigneur nous invite à valoriser, à travailler ce moment ensemble. Et aussi, on remarque, venez pour veiller sur notre frère, notre sœur, l'encourager dans sa foi. Et pour terminer, cette citation de notre petit livre d'études qu'on fait dans un de nos cours, « Ce que tout membre d'Église devrait savoir », le cours de membre, une citation que j'aime beaucoup. Et on va enchaîner justement avec l'adoration maintenant. J'inviterai l'équipe de louanges juste après que je lis ceci. L'adoration est la plus haute expression de la vie de l'Église et en même temps sa plus grande prérogative et son devoir le plus noble. La capacité d'adorer est ce qui distingue l'homme des êtres inférieurs. Hein? L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu est nécessaire à l'homme et l'homme est nécessaire à Dieu pour que ce dernier puisse répandre sur l'homme son amour infini. Alors, je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher pour le dernier set. Prenez peut-être 10 minutes pour nous conduire dans un temps d'adoration et puis nous terminerons avec un mot de prière. Mais déjà, je vais prier.